www.radioscoop.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 29 août 2022. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver ce soir en ce dernier lundi d'août, mais plus important encore, ce dernier lundi de mercato, puisque le mercato se termine dans deux jours. J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine. Ce soir, à mes côtés, un supporter heureux.
Ah, mais tu as retrouvé le slogan, tu as retrouvé la musique.
Exactement. Vous l'aurez reconnu, hein, il ne pouvait pas manquer l'émission ce soir. Hein, le Standard a gagné ce week-end, la deuxième fois seulement de la saison, mesdames et messieurs. Steve Gris,
bonjour
Steve.
À tous. Je viens chaque fois que le Standard gagne, quoi. Donc tu ne risques pas de me voir très souvent cette année, mais là je suis là.
On le redoute, on le craint, c'est dommage. On va en parler bien sûr du Standard qui a réussi donc à gagner ce week-end, deuxième victoire de la saison. À mes côtés également. Alors ce dernier jour de Mercato, son analyse, ses connaissances vont nous être très précieuses ce soir. C'est le fondateur de l'agence Sportima, une agence spécialisée en conseil, communication, marketing sportif, Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Hello, bonsoir à tous.
Ça va ?
Salut Steve, salut. Et à l'année prochaine.
Soyons pas durs. Au programme ce soir, il sera bien sûr question de Jupiler Pro League avec la sixième journée de championnat. On jettera également un œil sur les deux matchs en retard qui doivent être disputés cette semaine. Les deux matchs avaient été reportés afin de permettre aux deux clubs belges engagés en Coupe d'Europe de pouvoir parfaitement préparer leur match. On s'intéressera ensuite à la Coupe d'Europe puisque les groupes et les calendriers sont désormais connus dans les trois Coupes d'Europe. Et enfin, on fera un tour du reste de l'actualité footballistique. Et on va vous donner, tout au long de l'émission, on essaiera de vous donner des news sur les transferts récemment réalisés, sur les rumeurs qui sont en cours, donc à deux jours de la fin du marché des transferts. On espère qu'il n'y aura pas trop de panic buy, comme on dit en Angleterre, d'achat de joueurs en toute fin de mercato, parce qu'il faut acheter. Écoutez, on verra ça. Je vous conseille. C'est le coup, voilà, on l'a pas bien entendu. Voilà, c'est le coup d'envoi. C'est parti, le coup d'envoi. On commence par la Jupiler Pro League et je vous propose de commencer par le match le plus attendu du week-end, le derby bruxellois qui opposait l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht. Et c'est l'Union qui l'a emporté 2-1 au terme d'un match plutôt dominé par les unionistes dans l'ensemble. Mais des unionistes qui ont dominé mais ne se sont pas mis à l'abri lorsqu'ils menaient 2-1. Pourtant, ils en ont eu pas mal des occasions et ont même été à deux doigts de se faire reprendre dans les 10 dernières minutes où Anderlecht se montrait très pressant.
Présent aussi.
Qui veut commencer
Mais je pense qu'on était tous les trois au stade hier.
Oui,
exactement. Si je ne me trompe pas déjà.
En effet.
Fait rare. On n'aura pas d'excuses si on a fait des imprécisions.
Mais c'était un vrai derby.
Ouais.
Et ça, c'était chouette. Et je pense même pour le spectateur neutre qui regardait, tu avais tout. Tu avais ce but en début de match, tu avais de l'intensité, tu avais des supporters qui se charriaient, qui chantaient.
Ouais.
Tu as eu des moments VAR, tu as eu.
Des
occasions, tu as eu un tir d'Amani de loin que Van Krombrug arrive encore in extremis à arrêter. Tu avais vraiment tous les ingrédients d'un bon vrai derby qui était encore relativement très fair-play dans son ensemble.
Ouais.
Moi, je partage tout à fait cette analyse. Honnêtement, pour le spectateur neutre, mais quel spectacle. Oui, tout n'était pas parfait techniquement, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'intensité. C'était un jeu très offensif. Le premier goal, il est marqué après 90
secondes.
Hein. Donc évidemment, ça donne le ton du match. Il y a eu très, très peu de temps mort. Il y a eu des temps forts des deux équipes. C'est paradoxalement quand Anderlecht essayait de contrôler le match que l'Union a eu ses plus grosses occasions dans, je dirais, dans le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps où là, on s'est dit vu qu'ils marquent pas, ils vont forcément le payer un moment. Mais il y a eu des très 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 belles actions. Et alors ce que j'ai aimé, ce que je redoutais évidemment, c'était il s'est quand même bâti une certaine animosité entre les deux équipes, je dirais surtout du côté anderlechtois, suite à la réussite de l'Union l'année passée, et puis aussi par le départ de Mazzou. Donc il s'est créé toute une espèce d'animosité, une nouvelle rivalité entre ces deux clubs, et on pouvait craindre que cela se voie soit sur le terrain, soit dans les tribunes. Pas du tout. Honnêtement, sur le terrain, je trouvais que c'était globalement très fair play. Dans les tribunes, ça s'est également super bien passé. Et il y a eu finalement, les équipes se sont charriées et tout le monde l'a bien pris. Et donc, je pense que ça participait aussi du grand spectacle et du beau spectacle qui nous ont donné l'occasion de voir hier soir.
Oui, absolument. Il y a eu, comme vous l'avez dit tous les deux, un style offensif des deux côtés. On a retrouvé, je trouve, l'Union, enfin, on l'a pas complètement perdu, mais l'Union tel qu'il était l'an passé, avec beaucoup de volonté, de jeu vers l'avant. On ne renonce jamais, on court, on est offensif. Peut-être un petit peu moins de réussite que l'an passé. Enfin, ils ont quand même eu de la...
J'ai vu un tweet passer d'un journaliste qui disait finalement l'Union est peut-être aussi fort, si pas plus, que l'année passée. Alors, je ne sais pas dire, je ne pense pas qu'il soit plus fort. Mais en tout cas, on l'a déjà dit à multiples reprises, et c'est une évidence, cette année, c'est une année casse-gueule. Hein.
Ouais,
l'année de la confirmation, pour tout le monde, c'est la pire des années. Et en principe... statistiquement, elle se passe mal, pas parce qu'ils sont relégués, mais elle se passe mal parce que forcément les attentes ont été mises à un tel niveau que forcément ces attentes sont déçues. Et le jeu proposé, même si il y a déjà eu quelques petits ratés, tant en championnat qu'en Coupe d'Europe, c'est relativement prometteur pour, en tout cas, rêver à une certaine stabilité. Stabilité ne veut pas dire lutter pour le titre, mais stabilité, ça veut dire stabilité dans le haut du classement. Et si c'est déjà acquis, je pense que c'est déjà une belle réussite. Et honnêtement, ce qu'ils nous ont montré, c'est que avec la paire de Nielsen et la paire d'Undav, on se dit, le milieu avec un métronome comme Nielsen, c'est très compliqué avec un buteur comme Undav. Ils ne sont pas du tout encore remplacés, mais en tout cas, il y a un nouvel équilibre qui est tout doucement en train de se mettre en place. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Et c'est chouette de se dire... Dans ce championnat où il y a quelques belles petites équipes qui vont être compétitives, si l'Union se mêle, ça va être chouette pour tout le monde, pour tous les spectateurs.
C'est vrai.
Mm-hmm. Alors, comme tu dis, il y avait les occasions, c'était dans la reconversion aussi. Et ça, c'était la spécialité de l'Union qui partait en contre l'année passée. Tu as eu ça hier, et bon, là, il y a des occasions qui ont été ratées, mais tu as gagné ton match. Et je pense que si tu continues comme ça cette saison, tu confirmeras ta place dans le top 8. Et la saison sera réussie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive aussi. Il y a des déplacements, encore en Europe, ça va encore, mais les 6 matchs de Coupe d'Europe vont coûter des points en championnat. Ah, c'est indéniable, que ce soit pour Lyon, Anderlecht, Bruges, peu importe.
Je viens de regarder le calendrier qui vient de sortir, démentiel, hein. Démentiel, avec des matchs toutes les 72 heures pendant 2-3 semaines d'affilée.
C'est vrai qu'on rappelle toujours que la Coupe du Monde démarrant le 20 novembre, tout doit être ficelé avant la fin octobre, tout début novembre. Et donc, il faut caler ces 6 matchs de Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe en question. Alors qu'habituellement, on joue ces 6 matchs jusqu'au début décembre.
Jusque 20 décembre. Ouais. Mais oui, cette année, comme tu dis, il y a non seulement la Coupe d'Europe qui s'ajoute et qui se squeeze plus rapidement dans l'enchaînement. Donc, tu as à chaque fois des paires de matchs de Coupe d'Europe. Donc, semaine 1 et 2, 3 et 4, tout se suit. Et en plus, il y a encore 2 journées de championnat pour l'Union et une pour la majorité des autres clubs, qui se cale encore là entre. Donc, il y a eu Anderlecht hier, il y a l'Antwerp qui suit mercredi, déplacement à Zulte-Waregem dimanche soir, si je ne me trompe pas.
Puis
il y a le début de la Coupe d'Europe, il y a le match contre Genk, ça va être très intense.
Donc, en gros, ils jouent la Coupe d'Europe et ils jouent deux des 3 meilleures équipes du championnat, tout ça en 2 semaines de temps.
Ouais. Ouais,
non, tu parles d'Anderlecht être...
L'Antwerp et Genk, hein.
C'est vrai.
C'est vrai. C'est curieux d'ailleurs. Je serais curieux de savoir sur quoi le journaliste qui a tweeté qu'ils étaient peut-être meilleurs cette année encore, sur quoi il se base.
Alors, de ce que j'ai vu, il faut honnêtement, il y a quand même un point à mon avis qui méritera des développements les prochaines semaines. C'est cet attaquant nigérien qu'ils ont acheté,
Victor Boniface.
Ouais. Remplacer Undav, c'est impossible. Mais là, C'est évidemment toujours tôt hein, pour l'évaluer, mais le garçon, ouais. il a montré de sérieuses qualités. Hier, à un moment, je me suis dit, avec les spectateurs avec qui je partageais le match, on s'est dit, à un moment, il y a, bon, toute proportion gardée, mais il y avait un style Lukaku là-dedans.
Ouais, tout
dans,
à fait.
Dans sa conduite de balle, dans sa capacité physique à utiliser son corps pour résister aux joueurs qui revenaient.
Ouais, non,
il est fort, et ce qui nous fait dire qu'il pourrait être proposé un profil différent d'Undaf qui pourrait être extrêmement intéressant pour l'Union.
Et très atypique pour un attaquant, il mettait un pressing énorme sur Amouzou et sur le défenseur d'Anderlecht qui était toujours dans sa zone. À chaque paire de balles, il continuait, il attaquait, il pressait, il tentait de récupérer le ballon.
D'ailleurs, c'était août, hein. Je commence le
c'était pas toujours août.
Mais août, en tout cas, a pété les plombs à un moment. Parce qu'il en avait marre.
Il en avait marre. Mais c'est vrai qu'il a une puissance.
C'était de Bast, si je ne me trompe pas.
Et puis, il a mis c'est lui qui a ouvert le score dans les tout premiers instants. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi que le profil différent de celui d'Undav peut être intéressant dans la complémentarité aussi avec Dante Van Zer. Dante Van Zer, il a fait un match à la Van Zer, j'ai trouvé. Bon, il a marqué un beau but. Il a une telle générosité que parfois il peut se louper sur certaines choses. Mais je le faisais remarquer à la personne avec qui j'étais, que c'était je pense que c'était à 4-5 minutes de la fin. Il a fait une course de repli défensif d'une soixantaine de mètres. On se dit, bon, ben voilà, il a peut-être pas parfois le geste juste devant, il va être un peu brouillon, mais il a tellement de cœur et tellement de dévouement pour l'équipe que c'est beau.
Mais Alex connaît peut-être mieux l'histoire avec Van Zer, mais il y a clairement, en tout cas en tant que spectateur, un avant et un après Van Zer lié à sa carte rouge juste ouais. précédant les playoffs. On a un peu le sentiment en tant que spectateur qu'il a vraiment une traversée du désert. S'en est suivi deux pénalties ratées qui ont probablement, ou en tout cas, qui ont joué très très fortement dans le titre l'année passée. Et il s'en est suivi le fait que, alors qu'il était en réussite totale et il marquait tout ce qu'il arrivait, bah, il marquait plus. Et donc on sait que pour un attaquant, ce genre de bévue commence à peut-être à hypothéquer la confiance. Et finalement, les phases où on mettait tout, bah, on les met plus. Et on est dans un cercle un peu infernal au niveau de la confiance et de la réussite.
Mais pour beaucoup d'attaquants, à cette conjoncture, tu ne vas pas continuer à marquer 30-40 buts par saison. Donc tu as des passages à vide, tu as des moments où ça ne rentre pas. C'est une question de poids, ça commence à jouer dans la tête. Et puis tu vas en face au gardien et tu commences à réfléchir. Ah, et là, tu sais que l'action, elle est ratée, ou presque. Et donc oui, il y a des moments comme ça. Après, je pense que Dante, il a appris de ses erreurs. Je parle de la carte rouge, je parle des pénaltys. Même si le pénalty, voilà, il faut que quelqu'un le tire. Et il faut avoir l'audace de le tirer. Et après, il faut avoir aussi la bravoure pour dire, voilà, j'assume, j'ai merdé, hein, on va dire ça comme ça. Et la prochaine fois, on fera mieux. Donc il y a cet apprentissage aussi, dos au mur, dans des situations qui ne sont pas roses, mais de tout footballeur en ressort plus fort. S'il t'en tire les bonnes conclusions, s'il continue à bien bosser et s'il continue à avoir la confiance.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors moi, j'aime beaucoup dès qu'il est marqué maintenant. Hein, ce genre de choses peut justement non seulement enrayer la spirale négative, mais recréer finalement un mouvement. Et je pense que l'éclosion potentielle future de Boniface va jouer. Parce qu'en fait, c'est un profil qui est totalement différent. Et ça, je pense, c'est le rêve de la plupart des entraîneurs. C'est d'avoir le luxe d'avoir deux attaquants que tu peux faire jouer ensemble ou séparément en fonction des circonstances de match, mais qui peuvent, selon la configuration du match ou selon l'adversaire, bah, qui apportent totalement autre chose à l'équipe. Mmh. Et c'est génial, c'est un luxe.
Sans oublier que tu as encore Nilsson qui est sur le banc, qui est un joueur qui est venu d'Allemagne, et tu as encore Adingra qui est prêté par Brighton, qui était également sur le banc, qui n'a pas fait une mauvaise entrée hier d'ailleurs.
Adingra, oui, on l'avait vu au premier match.
À Saint-Tron, oui.
Ouais. C'est lui qui avait fait le slalom, là. Oui, oui.
Et puis bah, les valeurs sûres, j'ai trouvé Burgess encore assez très solide. Bon, on saura pas s'il y avait main pas main finalement, parce qu'on va revenir sur l'histoire de ces deux pénaltys. C'est un fait assez rare, je trouve, dans un match, de voir un arbitre siffler deux fois pénalty pour la même équipe et revenir deux fois sur sa décision. Alors, il y aura même pas eu de débat ou de vérification de la faute en question, puisque donc sur le premier pénalty sifflé, il siffle une main. Dans la surface, mais au sol, Burgess est en train de tomber. Bon, il siffle le penalty, et puis la VAR lui rappelle que il y a eu un hors-jeu préalable, donc on n'a même pas le penalty. Quant au deuxième pénalty, et ça c'est aussi assez rare, le VAR a rappelé l'arbitre pour lui dire que la faute avait eu lieu juste en dehors de la surface. J'imagine la déception des Anderlechtois.
Ce que tout le monde avait vu. Hein.
Ce que tout le monde avait vu, ouais. Ouais, les Anderlechtois ont dû être bien déçus deux fois passés tout près. Mais au moins, j'ai l'impression que ça n'a pas de... Ça simplifie, enfin, on va dire, d'une semaine sur l'autre, on peut dire tout et son contraire sur la VAR, mais ça a été assez bien, ça a été bien pris, voilà,
c'était rapide,
que c'est vérifié,
c'était surtout
rapide, ouais.
Mais ils sont à trois dans le bus de la VAR, et c'est des situations binaires qui ne laissent pas de place à l'interprétation. L'autre Struiken, pour moi, il est hors-jeu, donc ça annule la main, sinon il y a main, il y a pénalty, je pense que c'est clair. L'autre phase, elle est en dehors, tout le monde le voit, c'est clair aussi, et donc... Il n'y a pas pénalty. Après, le coup franc d'André Vaïlov, Maurice a quand même très bien été la chercher.
Oui, et c'est vrai que...
C'est coup franc. Il est rare d'avoir un coup franc qui ressemble autant à un pénalty. Hein,
ouais,
parce qu'il était vraiment, vraiment quasiment sur la ligne du rectangle.
Et, hein. Oui, et puis avec un angle, une possibilité de frapper un peu des deux côtés. C'est vrai que le gardien est laissé à son bon jugement.
Moi, je retiens cette fin, que tout ça s'est passé dans les 10 dernières minutes. Je retiens d'abord qu'Anderlecht, chapeau, parce que ils étaient vraiment fatigués. Ils reviennent quand même de 120 minutes qu'ils ont fait 72 heures avant. Alors, certes, ils ont gagné, ce qui fait que dans le mental, on ne vient pas avec les mêmes jambes quand on revient fatigué, mais après une victoire qu'après une défaite. Mais tout de même, arriver à mettre un tel pressing dans le dernier quart d'heure, dans les 10 dernières minutes, alors que physiquement, il est logique qu'on soit un peu plus atteint, je trouve que ça montre que l'équipe est tout de même solide et fraîche physiquement et est vraiment prête au combat. Là où le point faible, en tout cas que je dirais, de l'Union, même si c'est normal de subir dans un tel match, c'est 2-1, c'est 10 minutes, c'est normal que vous jouez pas en attaque. Tout de même, hein, c'était fébrile, c'était vraiment sauf qui peut. Au point de créer deux situations de pénalty en 10 minutes,
il faut
quand même le faire. Et on avait l'impression que chaque attaque d'Anderlecht pouvait être potentiellement un coup tranchant. Et donc là,
un petit peu comme au début du match, quand le but est marqué l'égalisation. Je pense la deuxième fois que les unionistes sont pris dans leur dos sur une passe en profondeur. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu... ils avaient trouvé les Anderlechtois avaient trouvé une petite faille. Et puis ça a été corrigé ensuite par l'Union. Mais c'est vrai qu'ils sont restés au contact. Les Anderlechtois, sans doute aussi par la faute des unionistes. Ils ont eu les possibilités de faire 3-1. Mais bon, voilà, c'est... Et comme tu le dis, quand on met pas le troisième, ben on s'expose bien souvent à prendre l'égalisation. Et là, ça aurait été décevant.
À mon avis, pour clôturer le chapitre derby et Union, big up à Carole Gerhardt. Il fait quand même un travail monstre. C'est vraiment, je trouve qu'il faut le dire. En tant qu'ancien standardman en plus, je pense, Steve, tu seras d'accord. Énorme le travail. Et on voit encore une fois, c'est l'élève qui bat le maître hier.
Oui,
mais c'est chouette, j'ai vu leur conférence de presse, c'est sympa, parce que finalement il y a un tel respect total entre les deux, on n'est pas dans un système de... Bon, il y a un système de rivalité, mais...
Ils s'entendent à merveille.
Ah, oui, clairement. Ça, c'était louanges respectives, et ça je trouve ça génial. Mm-hmm. Et pourquoi tu dis chapeau à lui, parce qu'il aura réussi dans le dispositif à...
En tant que T2, de reprendre une place de T1, c'est compliqué, parce que tu as une perception auprès des joueurs de qui tu es très proche l'année précédente, que tu es toujours le T2, que c'est toujours marrant, et quand tu dis quelque chose, oui, bon, tu sais, en tant que...
On attendra que le T1 confirme.
Il avait une place à prendre qu'il devait créer.
Il doit créer cette place, mais aussi ses discours, quand on les entend avant le match, et juste après le match, etc., avec les vidéos, il crée quelque chose. Et ça, je trouve vraiment formidable. Et comme tu disais, Felice aussi, il a appris énormément avec Thomas Christiansen la première année qu'il était à l'Union, et après avec Felice, et comme Felice l'a dit, la réaction de Carole, et ça démontre tout le respect entre les deux hommes, et ça, c'était vraiment pour Carole. C'est classe, et il est classe aussi dans sa manière de coacher, dans son attitude, dans ses discours, dans sa manière d'être. C'est vraiment c'est un exceptionnel entraîneur de demain pour l'Union, mais aussi éventuellement pour d'autres clubs en Belgique ou à l'étranger.
C'est vrai que c'est toujours chouette de voir ces gens qu'on a connus joueurs il y a pas si longtemps s'émanciper. Et bon, c'est bien que c'est pas parce qu'on était un bon joueur qu'on a un bon entraîneur. Non. On a Chiffaut, on a plein de contre-exemples, mais de voir finalement pas toujours les grandes stars.
Oui, c'est vrai.
Mais les joueurs qui étaient souvent hein, des espèces de pions clés sur l'échiquier, qui avaient vraiment un rôle dans l'équipe et pas seulement un rôle individuel, et qui ont beaucoup appris de ça. Deschamps.
On a tendance à dire, c'est vrai que souvent les les gardiens de but ou les milieux défensifs, enfin les joueurs aux tâches un peu plus ingrates, font de bons entraîneurs. Alors le gardien de but, c'est évidemment parce qu'il est derrière, qu'il voit tout, et donc il aurait une perception tactique plus aiguisée. Et puis les joueurs, comme tu le disais, comme Didier Deschamps, voilà, des joueurs qui pensent collectif d'abord, et donc stratégie globale, stratégie d'équipe. Et c'est vrai qu'il y a moult exemples de très grands joueurs qui...
Il n'y a que ça, hein, en Belgique. Qui quand tu pas, Oufkens, ouais. Il était défenseur central. Gerhard, il était milieu défensif ou 8.
Jackie Mataïfen était gardien.
Jackie était ma gardien. Notre ami Franken de Genk, il était milieu défensif.
Adam Bailey qui était attaquant. Hein.
Oui, mais on parle du top, là. Avec tout le respect qu'on a pour Mbaye, évidemment.
Oui, c'est vrai que c'est une...
En Van Azebroek était défenseur central et libéro.
C'est à une autre époque.
Oui, je ne l'ai pas connu, lui, tu vois.
Mais moi, je l'ai connu.
Ah, c'est vrai ?
Bah oui. À Holbeek.
Ah oui, 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 oui. Oui. Bon, mais en tout cas, je trouve que ce match était extrêmement plaisant. Pour les supporters, pour les spectateurs neutres. Et alors, on attend, là maintenant, avec une impatience folle, les prochaines échéances pour Anderlecht et pour l'Union. Parce que les deux ont des gros matchs en Belgique et des gros matchs en Europe. Et donc, les deux prochaines semaines, on va vraiment, vraiment s'amuser. Et dans la rivalité, saine rivalité, en tout cas, comme ça a été montré hier entre l'Union et Anderlecht, c'est 5-0 pour l'Union. Hein.
Ouais, ça fait cinquième victoire consécutive.
Ça fait beaucoup. Hein.
Ça fait, ouais. On comprend que les mauves soient un petit peu... titillés, chatouillés, ils se sentent pas
et
tout
si
à
je
fait
ne m'abuse, le dernier match entre l'Union et Anderlecht avant que l'Union remonte en D1, c'était le match que l'Union a fait quand ils étaient en D2, ouais. Où ils ont éliminé Anderlecht de la Coupe.
Il y a eu le match de Coupe aussi, le 0-5 pour Anderlecht au Parc du Den avec compagnie, avec Vincent, et fin septembre 2018, il y a eu le match de Coupe 0-3 aussi. Donc il y a eu ce petit 0-5
d'accord. Comme qui vient arrêter la série.
Qui arrête un peu la série.
Bon, eh ben, passons à une autre série, là, une série de défaites qui a été interrompue, une courte série, mais enfin, celle du Standard. Le Standard, les Rouges restaient sur deux défaites consécutives en Pro League. Alors là, ils étaient opposés à Courtrai, dont le début de championnat est plutôt compliqué. Ils avaient avant ce match 3 défaites, 1 victoire, 1 nul. Et le Standard a dominé le match hein, sur tous les plans, le nombre de tirs, la possession, la précision des passes, enfin toutes les statistiques qu'on peut ressortir d'un match. Néanmoins, le Standard a eu un mal fou à inscrire un but et celui-ci est arrivé finalement à la 83e minute grâce à Amala. Amala qui revenait de suspension après le rouge qu'il avait reçu il y a 15 jours. 3 changements avaient été opérés par rapport à l'équipe de la semaine passée. Qui avait été battu, les changements qui étaient imposés hein, souvent par les circonstances puisque Amala il retrouvait sa place, Dussen était blessé et un troisième changement au milieu de terrain, c'était Raskin qui était sur le banc je pense. Bon, le Standard a plutôt présenté une défense qui était jusqu'alors assez friable, puisque c'était la moins bonne de Pro League. Et là, ils ont plutôt présenté une bonne défense, pas forcément très embêtée tout le temps par les Courtraisiens. Mais c'est en attaque plutôt que les problèmes ont été les plus évidents, j'ai trouvé. Dragus et Edmond ont fait un match... comment on pourrait qualifier ce match moyen terme
Dragus et Edmond.
Voilà. Dragus et Edmond. Et Edmond qui a loupé... plusieurs occasions très très nettes, et pour moi la plus symbolique, c'est à la 82e minute où la balle lui revient, il manque de spontanéité. Et là, je ne sais pas si on lui parle, enfin, ou si un adversaire lui dit un mot dans le dos, mais il fait un truc qui n'est pas idiot, il dit je vais la remettre en retrait parce que moi je suis coincé, je ne peux pas frapper, et il la remet en retrait à un défenseur qui est là, donc je ne sais pas si le défenseur l'a appelé, a appelé la balle ou si c'est lui qui s'est trompé. Mais voilà, c'était assez, je trouvais symbolique du match où il était... un peu à côté de la plaque la plupart du temps.
Non, après, c'est 3 points en or pour le Standard surtout. Et le mercato n'est pas terminé. Il y a encore quelques joueurs qui vont arriver, à mon avis. Donc, tu devras...
Je pense que Courtrai était faible.
Moi, Courtrai était faible aussi, mais...
C'est ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, l'entraîneur de Courtrai était limogé ce matin. C'est le premier limogeage. Premier, on se doute bien d'une longue série. Hein,
oui.
Comme d'habitude, mais
le mois d'août
Courtrai était très très faible. Je reviens à ce qu'on disait la semaine passée, qui n'a pas changé. Le noyau du Standard est totalement insuffisant. Je veux dire, avec le noyau actuel, la mentalité actuelle, ça ne jouera pas plus que au mieux, vraiment éviter les 3 dernières places. Alors, je ne dis pas du tout qu'ils seront dans les 3 derniers, non, mais ils seront dans la deuxième partie du tableau. Ça me paraît évident si rien ne change. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas jouer, qu'ils vont pas jouer le maintien. Comme disait Alex, il y a les transferts. Transfert à voir, parce qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ben, c'est des noms forcément dont on ne connaît, qu'on ne connaît quasi pas.
Il y a un nom que tu connais, c'est, ils sont à la recherche de Balanta.
Oui, oui, j'ai entendu ça.
De Bruges.
Oui, j'ai entendu.
Ce qui serait un bon transfert, car...
Il faut voir l'état de forme aussi.
Ça, il n'y a pas trop de soucis.
Donc voilà, il y a vraiment du travail en termes de transfert. Là où je vois quand même quelque chose de positif, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en interne, mais ils ont deux vrais joueurs de niveau que sont Raskin et Amala, et apparemment les deux qui étaient partants, quasi certains, seraient, on sait bien la réalité du foot, seraient sur le point de rester. Ça veut donc dire qu'il y a eu un discours, ou en tout cas il y a eu quelque chose qui les motive à rester à tout le moins 6 mois ou 1 an de plus. Ça, j'y vois une certaine éclaircie, je me dis quelque chose de positif, dans la mesure où peut-être que la direction... Et le nouveau directeur sportif qui est arrivé a pris conscience du fait qu'il y a quelque chose à bâtir immédiatement, peut-être pas pour cette année, mais en tout cas pour éviter les risques et pour déjà construire pour les années futures. Et ils ont peut-être eu l'assurance qu'une équipe compétitive serait établie dès le mois de septembre, ce qui est de nature en tout cas à me rassurer.
Il va falloir travailler dur pour trouver une équipe compétitive d'ici à septembre. C'est-à-dire
on doit faire les transferts de toute façon. Oui. On doit faire les transferts maintenant pour avoir une équipe compétitive pour le championnat, pour ne pas se retrouver au fond du tableau. Oui, et Aymon, c'est pas du tout un mauvais joueur, mais Aymon, ce sera jamais une star. Aymon, c'est un joueur qui est très très bon. Lorsqu'on lui met le ballon, c'est un renard des surfaces, lorsqu'on lui met le ballon sur la tête. Faut pas lui demander de commencer à dribbler 4 hommes et à résister à une charge et faire un dans la lucarne.
C'est
quelqu'un qui, on sait, qui est bien placé, il a l'intelligence d'être souvent bien placé, il a une bonne tête, il a une bonne frappe. C'est ce qu'il sait faire. Et pour ça, il faut une équipe. Hein. Il faut des milieux de terrain, il faut des ailiers qui débordent, il faut des centres qui sont bien placés, il faut quelque chose. Et quand il a été bien nourri, il a toujours marqué son quota de goal. Mais lui demander à lui tout seul de supporter le poids de l'attaque et d'être compétitif, vous oubliez. Hein.
C'est ça, il va falloir apporter des changements, renforcer l'équipe. Il y a eu un renfort, mais je ne pense pas que ce soit des renforts qui soient de nature à vraiment influer sur le futur immédiat du Standard. C'est l'arrivée d'un Israélien, Osher Davida, en provenance de l'Hapoël Tel Aviv. C'est un international ailier israélien de moins de 21 ans qui est entré en cours de jeu. Je ne suis pas certain que ce soit il ait l'expérience et le poids. Mais...
L'expérience pas, mais il a cette fougue, il a cette jeunesse, il aura sûrement cette rapidité aussi. Donc,
C'est le genre de transfert dont on ne sait pas vraiment. Alors, les transferts israéliens du Standard n'ont pas été une énorme réussite ces dernières années. Il faut être honnête aussi, quand on achète sur le marché israélien, c'est parce que c'est un marché qui est abordable financièrement et que c'est un marché où il y a pas mal de joueurs qui sont techniques, mais c'est souvent leur premier voyage, c'est pas toujours les stars internationales, donc c'est un marché accessible et c'est souvent pour ça que le Standard a été pioché des joueurs dans le marché israélien. Après, j'essaie d'être positif et on ne sait jamais, ça peut être une super pioche qui a plein de fougue et qui se révèle au Standard. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va bâtir une équipe, ça c'est certain. En tout cas, compétitive immédiatement.
Mais ce n'est pas une position non plus où tu as besoin énormément d'expérience. Tu as cette rapidité, tu as ce flanc, tu as ces centres, tu vas remettre la balle.
Ça oui, c'est vrai.
C'est le poste de numéro 6 qui sera important. Et alors le deuxième attaquant. Il y a un attaquant un peu rapide aussi.
Il y a un moment où au Standard, on doit arrêter de donner du crédit à un certain nombre de joueurs qui finalement étaient peut-être des bonnes pioches parce qu'elles ont coûté cher, mais qui se sont arrivés depuis leur début au Standard, complètement incapables de pouvoir mener à bien cette équipe. Hein. Je pense à des Donoum, à des Dragus. Dragus, il traîne sa patte là depuis 4-5 ans. Alors, il paraît que c'est un joueur pétri de qualité, et je trouve bien que... vu que ça tourne pas mal en entraîneur, bah, qui leur donne sa chance pour justement, peut-être qu'il y en a un qui arrivera à provoquer le déclic. Mais à un moment, ça suffit. Hein. Un Donoum ne se bat pas, un Dragus, il a des fois des éclairs de génie, mais pour le reste, il faut vraiment des gens plus compétitifs que ça. Maintenant, on va pas se baser que sur le négatif. Hein. Cette victoire, comme tu l'as dit, Alex, ça fait du bien. Le Standard n'a pas de Coupe d'Europe, le Standard a l'occasion de bâtir quelque chose. Et j'en parlais avec un de mes amis supporters d'Anderlecht samedi soir qui me disait, tu sais, autant on adore charrier le Standard, autant il y a quelque chose que voir le Standard comme ça, ça nous fait même plus rigoler. Parce que alors on ne rigole même plus du Standard parce que c'est pas chouette. C'est plus on veut de la compétition. Et donc on attend tous tout de même qui... Et il me disait, la chose qu'il leur faudrait, c'est un Verkotteren, ou en tout cas quelqu'un qui, pendant 2 ans, ne va pas faire de flamboyance, mais va construire quelque chose pour bâtir sur l'avenir. Il n'a peut-être pas tort, construisons quelque chose de stable.
Je pense que Della est un entraîneur pour ça aussi. Après, il ne faut pas oublier, et pour tous les supporters du Standard qui écoutent, une reprise de club, ça met 2-3 ans à fonctionner. C'est pas une baguette magique en 3 mois qu'en une fois, on va mettre des joueurs sur le terrain, tout va fonctionner, le Standard va être 3e. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Non, c'est clair, mais les supporters ont le droit d'être déçus parce qu'on est le 29 août. L'équipe que tout le monde considérait comme étant trop faible l'année passée, c'est exactement la même maintenant. Hein.
Ouais. Tu as été chercher quelques joueurs, je trouve, sympathiques.
Oui, mais en tout cas, je t'entends et ça me fait même chaud au cœur de voir que ce soit positif. Mais pour le moment, il faut reconnaître que les stars, la structure du club, elles restent en chantier. Hein.
Ça va être un chantier encore 1 an et demi, crois-moi.
On parle encore de... Là, j'ai une rumeur de départ de Chimirot au Partizan Belgrade.
Chimirot, en fait, ça fait partie, justement, c'est assez rigolo, hein, parce qu'on parlait de Gerhardt et de Deschamps. Chimirot, c'est le Gerhardt, c'est le Deschamps du Standard actuel. C'est-à-dire, c'est le joueur qui joue depuis longtemps, qui apporte, qui est jamais flamboyant, mais qui apporte une excellente stabilité en médian défensif. Il peut, aller dans certains moments, il est déjà monté en box-to-box. Donc oui, ce serait une énorme perte, mais ça va être compliqué de le maintenir contre son gré parce que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse au Standard et il n'a pas toujours malheureusement été heureux dans les noyaux avec lesquels il a pu travailler.
Eh bien, il va y avoir donc encore du travail de recrutement côté Standard. Il reste 2 jours.
Après, il y a des marchés exotiques qui sont un peu plus longs, non ?
Oui, il y aura peut-être...
Oui, mais pour les affiliations en Belgique, c'est plus compliqué.
Bon, il va falloir s'y mettre là. S'il nous écoute, le directeur sportif du Standard, c'est maintenant. Non, il ne nous écoute pas.
Si, peut-être bien, mais tous les process sont ongoing de toute façon. Négociations sont là. Ça va se finir dans les prochaines heures, normalement.
Bon. Non, en tout cas, on est toujours content en tant que supporter du Standard ou d'autres. Hein, on est toujours content quand ça se termine parce qu'on se dit. D'abord, on a toujours peur à quelle sauce on va être mangé parce qu'en Belgique, il y a souvent plus de départs que d'arrivées. En tout cas, Et puis on est content parce qu'on sait qu'on va plus faire voler de joueurs de manière générale et on sait l'équipe avec laquelle on va travailler pendant quelques mois.
On peut commencer à travailler et à envisager le futur. Vous avez autre chose à ajouter sur le Standard ?
Mais non, j'espère vraiment qu'ils vont essayer de tabler là-dessus et de pas perdre des points contre toutes des petites équipes. Essayer vraiment de se stabiliser pour que l'année soit la plus douce et la moins interrompue par des crises possibles. Ce serait vraiment bien.
C'est ça le danger en bas. Et on voit déjà maintenant, il y a panique à bord à Courtrai.
Oui, puisque c'est assez étonnant, dès la fin du mois d'août, de déjà limoger son entraîneur.
On n'avait pas l'habitude de Courtrai d'un tel début de saison. Et c'est vrai que Courtrai, c'est une équipe généralement dont on parle...
Ils avaient viré Van der Hag aussi assez tôt dans le passé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, l'année où Lucas Elsner avait repris. Mais ils ne s'attendaient pas eux-mêmes à avoir si peu de points non plus. Après, ils ont quand même déjà affronté, je pense, Anderlecht et Bruges et le Standard dans les 5 premières journées. Mais je pense qu'en interne, il y a d'autres problèmes.
Oui, il y a quelque chose.
Les joueurs ne sont pas plus motivés que ça non plus à l'idée de travailler avec Karim Belhossine depuis un petit temps.
On passe au champion. Oui, le club de Bruges.
Grosse prestation aussi.
Grosse prestation. Alors, ils l'ont emporté 1-3 à Charleroi. Grosse prestation, mais est-ce que le score reflète vraiment la physionomie du match ? En tout cas, il y a eu avec un peu plus de réussite, peut-être que les Carolo auraient pu accrocher un petit point. En tout cas, ils ont eu les opportunités à un moment donné du match de revenir. Mais sans être toujours et tout le temps époustouflant, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les Brugeois. Ils ont fait le travail avec des très très bonnes prestations. Kasper Nielsen, on l'avait dit.
Oh, quel goal C'est un goal à la Nielsen. Hein.
C'est ça, le corner, la balle ressortie, la frappe.
Cette frappe en première intention, ça, qui fouette la balle de l'extérieur et va se loger dans le cadre opposé. C'est génial.
Ouais, c'était un très beau but. Alex, ton sentiment
ça reflète le match. Et c'est jamais facile pour n'importe quelle équipe d'aller à Charleroi déjà. Après, tu es mené 1-0 et tu renverses tout à fait la vapeur avec des buts de Joudelin. Il me faisait penser à Baka dans ces années à Bruges il y a 10 ans. Et ce petit talent espagnol a quand même une énorme mentalité et un sens du but assez remarquable. Donc pour moi, Bruges gagne, c'est mérité de gagner à Charleroi. Et je pense surtout, on en parlait il y a quelques semaines, ils ont de nouveau appris de leurs erreurs. Il y a eu ce match à Eupen qui était pire que catastrophique. Il y a eu le match contre Zulte Waregem. Et en fait, c'était des wake-up calls. Après la victoire in extremis face à Genk, tous les joueurs pensaient peut-être à... on bat facilement quand on en a envie la deuxième meilleure équipe du championnat. Donc cette saison, on va faire ce qu'on veut quand on veut. Et finalement, wake-up call pendant 2 semaines. Et maintenant, Karl Lufkens les a tous mis sur une ligne. Et tu as quand même l'impression que ça ne rigole plus. C'est sérieux. On va pour la gagne, on va pour la victoire, on va pour atomiser l'adversaire.
Moi, je n'ai pas vu tout le match, pour être totalement honnête, mais j'ai suivi justement quand c'était 1-1. Et puis, Charleroi faisait une grosse pression.
Ouais.
Faisait vraiment une grosse pression. On s'était dit, waouh, Bruges va craquer. Et c'est à ce moment-là que Bruges a mis le 1-2. Puis après, Bruges a quand même sérieusement déroulé.
Ouais.
Et je me suis dit, tiens, allez, ils sont capables de faire le gros. Parce que Didier nous en avait parlé la semaine passée, hein, avec un certain nombre de doutes. Quant à la compétitivité à ce stade, en tout cas de la compétition, quant à ce que Hufkens allait faire, mais j'ai trouvé que honnêtement très fort dans l'idée de faire le gros dos et puis de mettre son empreinte décisive sur le match. Parce qu'une fois qu'ils ont mis le 1-2, le match était totalement plié. Ils ont vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment déroulé. Hein.
Et il y a un joueur dont on n'était pas sûr qu'il serait là, c'était Van Aken, puisque le bon Hans Van Aken était ciblé par West Ham, notamment. Il semble que le rêve du départ à l'étranger soit parti. En tout cas, il a joué. Enfin, lui, il en rêve peut-être, mais peut-être que la piste qui était la plus chaude s'est refroidie. Et ce qu'on le verra le reste de la saison à Bruges, on ne sait pas, bien sûr. Mais en tout cas, je pense aussi.
Attention à sa motivation, hein, parce que c'est un profil très particulier, Van Aken. C'est-à-dire, contrairement à d'autres qui ont toujours vu les sirènes de l'étranger très, très vite, même si... pourtant, on se disait qu'ils avaient un potentiel assez limité. Lui, il a toujours eu cœur à rester dans le championnat, peu importe les intérêts qui le portaient. Alors après, je ne connais pas en interne, peut-être qu'il était motivé, ça ne s'est pas fait. Mais enfin, il a toujours, et il disait, la famille, la stabilité, il a toujours été. Et là, c'est un peu la première fois qu'il le dit publiquement. Il l'a dit publiquement, hein, qu'il rêve un peu de cet intérêt de West Ham, des sirènes de l'étranger. Il faudrait évidemment, en se disant que c'était peut-être sa dernière heure. Hein.
Pour moi, c'était la dernière chance. Il avait déclaré auparavant aussi, s'il fait une carrière comme Gert Verheyen de toute sa vie à Bruges, il sera très content. Après, il y a West Ham qui est arrivé, tout le monde parlait de West Ham, et West Ham a proposé 10 millions au club de Bruges. Donc sans mauvais jeu de mots, ils n'ont pas mis le paquetta.
Ouais. Non, parce que pour West Ham, 10 millions...
c'est rien du tout, mais un joueur de l'importance de Van Aken à Bruges...
Oui, combien ils ont payé pour
Paqueta, 60.
Ouais, la différence est énorme.
Mais Paqueta, tu as une marge de revente assez considérable s'il joue 2 bonnes saisons à West Ham, tandis que Van Aken, tu ne vas jamais le revendre.
Mais non, parce qu'il aura déjà 32.
En tout cas, sur le terrain, il nous a gratifié d'une frappe en première intention. Juste, il a simplement posé le pied, mis le pied en opposition et la balle est partie sur la barre de Hervé Coffi. Il est toujours... il a ses coups de génie, Van Aken.
Mais tu sais, une guerre à la Verheyen, c'était une autre époque. Hein.
C'était une autre époque, c'était mais ça reste... Peut-être que Van Aken sera vraiment le dernier clubman en Belgique.
Ouais.
Peut-être.
Ah oui, non, tout à fait.
On lui souhaite.
Et
lui souhaite
j'espère en tout cas, s'il reste... C'est vrai que quand je voyais l'argent que mettait West Ham, par rapport au niveau des transferts de Première Ligue, en ce compris pour des joueurs qui ne sont pas censés être des joueurs de l'équipe première, on se dit, ouais, c'était pour tester un peu le truc. Et finalement, c'est pas là qu'ils allaient mettre leur argent. Donc c'est un peu dommage pour lui, parce que moi, je trouve que c'est un... Voilà, il a toujours été fort critiqué sur ton équipe nationale, mais c'est aussi cette espèce de joueur qui forme le cœur et le corps d'un groupe. Hein.
C'est le noyau c'est le noyau du club à lui tout seul, peut-être.
Mais moi, je trouve en tout cas que Bruges... Alors avec Van Aken encore plus, mais même sans. Et comme tu dis, je trouvais que leur transfert, allez, ils se trompent de temps en temps, mais ils ne se trompent pas toujours. Hein. Je trouve que chaque fois...
Disons que l'année passée, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont un tout petit peu masqué toutes les bonnes choses du paravent.
C'est possible. Mais leur noyau est resté... Enfin, en tout cas, leur 11 de base restait tellement compétitif. Et on se dit, chaque fois qu'ils apportent, avec un ou deux transferts chaque fois réussis, ils apportent chaque fois... une hauteur supplémentaire qui leur permet de combler finalement les inévitables transferts. Mmh. Oui. Et je trouve que c'est ce qui les maintient finalement à un très haut niveau.
Quand on pense que l'an passé, ils avaient aligné, en tout cas en début de championnat, un trio qui était Lang, De Ketelaere et Bas Dost. Aucun des trois ne figurait sur la feuille de match hier, pour des raisons diverses. Bas Dost est parti.
À Utrecht.
De Ketelaere, il est parti au Milan et visiblement, ça commence à bien se passer. Et Noah Lang était blessé. Tout ça pour dire que voilà, malgré ce changement important au niveau des pointes du club de Bruges, ils ont réussi à marquer, à produire un beau spectacle offensif.
Mais la grosse inconnue, c'est l'entraîneur aussi, hein. Parce qu'on dit qu'il est très très bon, mais aussi, c'est peut-être un très bon pari, mais il n'a pas encore d'expérience. Et moi, je n'ai pas du tout de recul de savoir comment il va pouvoir, manager une saison, comment il va pouvoir manager les temps faibles, à la fois dans le cours du championnat ou en cours de match. Il est peut-être excellent, mais je demande à voir.
On va très très vite le savoir. Mais maintenant, j'imagine, on va parler transfert.
On va parler transfert et on va commencer par le premier transfert brugeois récent qui est monté hier au jeu, d'Edric Boyata. C'est une bonne recrue, surtout en vue du mondial.
Je pense qu'il doit encore avoir un temps d'adaptation au club de Bruges et voir qu'est-ce qui va se passer. Brandon McAuley avait une offre de Bologne, apparemment. Oui. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Qui sera le leader de la défense au poste de défenseur central? Est-ce que Boyata, il a l'expérience, il a l'envergure, il a tout pour le faire? Est-ce que ce sera lui ou pas? Ça reste à voir.
Alors, il y a d'autres... le FC Bruges a, dans sa manche, d'autres beaux transferts en perspective, je crois.
Alors, il y a un transfert qui est fait, et c'est Raphaël Onyedika.
Voilà.
Comme son nom l'indique, il est nigérian. Il est de 2001, donc il a 21 ans, et il vient de où déjà, Sam?
FC Midtjylland.
Tout à fait. Midtjylland, le club danois, en partenariat avec Brentford, qui travaille aussi avec des statistiques.
Ouais.
Et donc, lui, il a signé. Donc, lui, c'est le transfert entrant le plus cher du club de Bruges. Donc, plus ou moins 10 millions. Et alors, il y a aussi Roman Yaremchuk, qui était à Zaventem ce matin et qui devrait signer sous peu, ou peut-être que c'est déjà fait entre-temps, qu'on ne l'a pas encore vu. Mais ça, c'est le deuxième transfert. Et lui, c'est quand même 16 plus 3 millions. Il vient de Benfica. On le connaît de Gand avant, où il a quand même fait de très belles choses en attaque, et aussi de son poste international ukrainien en attaque. Donc il y a ces deux transferts-là qui sont tout frais, des dernières 24 heures au club de Bruges. Et je pense, vu le prix qu'ils mettent, Bruges ne peut plus se cacher maintenant. Le titre, ça c'est une évidence, mais je pense aussi le top 2 de son groupe en Champions League.
J'allais y venir. Alors est-ce que... On fait dire... Oui. Non, je voulais parler un peu de l'Antwerp avant. Parce que non, ça dit à personne de parler
de l'Antwerp. Si, mais c'est vrai qu'on peut. Enfin, c'est toi. Tu vas le mettre des cérémonies.
Allons-y. Mais je suis d'accord avec. Oui. On va rester sur Bruges. Au vu effectivement du noyau du groupe et du groupe dans lequel il a été tiré, le club de Bruges a de bonnes chances cette année de passer le cap des groupes. On va rappeler juste la composition du groupe: Porto, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen. C'est quand même, c'est du top européen, mais c'est pas Manchester City ou le PSG dans le même groupe comme l'an passé où il y a, ça fait au moins ça reste abordable.
Quand tu dis le top européen, c'est des équipes que je m'attends en finale d'Europa League.
C'est ça.
C'est pas quand il y avait autant de chances de tomber dans le groupe du PSG, de la Juve et de Benfica pour le club de Bruges. À ce moment-là, c'est déjà autre chose. Et j'ai l'impression les 4 derniers jours, tout s'est mis en route. Suite au tirage, au sort de la Ligue des Champions.
C'est ce que je me suis dit, oui.
Et là, Bruges, c'est une occasion rêvée ou en or presque, même s'il faut vraiment respecter les adversaires.
Parce que
ce n'est plus le Porto qui a joué la finale. Ok, ce n'est plus l'Atlético Madrid qui va être premier ou deuxième d'Espagne et qui va tout donner et en Coupe d'Europe et qui va terminer en finale. Et ok, Leverkusen, ce n'est pas l'équipe qui, jadis, sur un malentendu, était en finale de Ligue des Champions. Mais ça reste 3 équipes très, 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 très solides et vraiment très compliquées à déjouer aussi. Mais là, tu n'as pas un Manchester City, un PSG comme l'année passée dans ton groupe qui va rendre impossible la tâche de te qualifier. Et donc, je pense que Bruges a investi stratégiquement sur certains joueurs pour tout donner, pour tenter enfin de passer ce cap de la phase de groupe en Ligue des Champions.
Moi, je ne suis pas... je n'en sais rien, mais je n'ai pas le partage pas comme ça ton avis que c'est lié au tirage. Parce que pour moi... Le tirage, il a beau ne pas avoir le PSG, t'as beau ne pas avoir Manchester City. ces trois clubs sont de loin, de très loin, supérieurs à Bruges. Donc le Tirol, et tu n'as pas de petit troisième autre que le club belge. Donc, parce qu'il n'y a, y a, y a pas un club où tu te dis tu vas tomber sur une espèce de club norvégien, encore que, tu vois, un club norvégien ou un autre
oui,
club.
Oui, mais c'est vrai que ça, ça fait quand même moins peur.
Ça fait moins peur
sur le papier, mais ils sont Dortmund
tous
plus, ou
tous,
je parle même pas du Bayern.
Ils sont tous plus forts. Il n'y a pas de match où tu vas te dire c'est
on
là,
est favori.
Là tu dois
oui,
prendre. Tu es favori, jamais. Mais j'ai le sentiment que, et là je partage l'analyse, que si Bruges doit faire quelque chose à un moment et doit taper un grand coup, c'est potentiellement maintenant, parce que le club est stabilisé, parce qu'ils ont tellement vendu que les finances sont quand même plus que dans le vert. Parce
c'est
que...
combien Charles de Ketelaar ?
En tous les cas, Bruges, ils ont quand même, ils sont assis là sur un pactole de 100 millions. Rien que sur,
voilà, et donc ils ont l'argent. Ils survolent le championnat de Belgique depuis maintenant 3 ans, et potentiellement encore cette année. Bah, à un moment, les supporters, ils sont contents de gagner, mais. Le trophée national, tout le monde rêve de regarder son club le mardi et le mercredi et de les voir jouer, de les voir gagner. Ce qu'on n'a pas, on a jamais été habitué en Belgique. On regarde, on est content de regarder jusqu'au mois de novembre et de décembre, éventuellement quelques clubs belges. Puis on regarde la vraie Ligue des Champions avec les vrais clubs, sans les clubs belges à partir du mois de février. Là, je pense que Bruges se dit, avec l'argent que j'ai, avec le fait que je me suis stabilisé, mes supporters sont convaincus, peu importe finalement le tirage, il est temps de faire des gros coups pour tenter d'être vraiment compétitif sur cette scène européenne. Et cette scène européenne, ça leur permettra, parce qu'ils sont déjà tout consolidés en Belgique, ils sont déjà pendant des années, certainement, oui. Même si les choses évoluent, hein, Anderlecht semble rattraper un peu son retard, l'Antwerp devient un sérieux concurrent, mais pour être super, rester au top en Belgique et pour franchir une étape supplémentaire, c'est où ? C'est l'Europe.
Tout à fait.
Et
oui,
pour
oui.
L'Europe, bah, il faut gagner pour avoir encore plus d'argent, avoir du budget et rentrer dans une spirale, finalement, une spirale positive qui en fait un underdog d'Europe. Hein.
Ouais. Oui. Faut pas oublier que chaque point en Ligue des Champions, c'est 1 million qui rentre. Et donc, je pense, Bruges table surtout sur ces matchs à domicile face à ces équipes. C'est des équipes, toutes les quatre, qui font quelque chose à domicile parce qu'ils ont leurs supporters derrière, parce que c'est compliqué d'y jouer. Et Bruges table justement là-dessus, à mon avis. Et de toute façon, on va très très vite le savoir parce que dans 8 jours, il y a Leverkusen qui débarque à Bruges. On le saura très rapidement. Mais je pense que Bruges table justement sur cette ambiance unique, sur ces matchs à domicile, sur des adversaires que tu ne te dis pas un éclair de génie d'Mbappé et c'est foutu. Tu vas pouvoir consolider ton match, tu vas pouvoir faire quelque chose. Tu vas pas les gagner tous. Je crois que si Bruges prend 9 points dans cette Ligue des Champions, c'est déjà exceptionnel.
Et ça suffit.
Mais ouais. C'est maintenant, pas sûr.
Mais peut-être.
Dans ce groupe, normalement, oui. Mais
ouais, voilà.
C'est comme tu
oui,
dis,
parce
Steve.
Qu'ils, parce qu'ils vont, oui, ils vont forcer. Ouais.
Comme tu dis, Steve, c'est cette année que tu peux le faire. L'année prochaine, tu n'y es peut-être pas à coup sûr, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le coefficient européen. Et deux, dans quel groupe tu vas tomber. Et comme tu le dis, les groupes PSG, Juventus, Benfica, tu sais d'avance que ça va être très compliqué, comme avec City, PSG, Leipzig l'année passée, comme le groupe qu'il y avait juste avant avec PSG, Real Madrid et je ne sais plus qui, ça m'échappe. C'était Zenit Saint-Pétersbourg. C'est autre chose.
Hein. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Alex. Le Porto était... Allez, après l'Eintracht, Porto était la bonne tête de série, disons, à tirer, il me semble. Contrairement aux années précédentes, ils ont... On a l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait renouvelé encore l'équipe, puisque c'est leur grande spécialité. Ils ont cédé pas mal de joueurs. Ils ont fait l'année dernière une saison très moyenne par rapport à leurs standards. Et c'est vrai que le FC Bruges a une chance. Moi, je pense que l'Atlético Madrid est le favori, mais qu'après ça, même si sur le papier, les deux autres clubs semblent supérieurs au FC Bruges, moi, je pense qu'ils n'ont rien à envier vraiment
ils peuvent jouer tous les matchs. Ils ne commencent aucun match perdant. Ils sont en principe plus faibles que les autres, mais aucun match n'est perdant. On considérera qu'ils n'auront, ce sera aucun exploit. Ce serait une grande réussite, mais c'est pas un exploit d'aller gagner contre le PSG. C'est un exploit, ça. Là, ce sera pas un exploit. Ce serait une grande réussite.
Ouais, ben écoutez, on leur souhaite bonne chance. Le premier match, tu nous as dit, dans 8 jours, Leverkusen au Jan Breidel Stadion. Vous voulez dire un autre mot sur allez peut-être le groupe C, Bayern, Barcelone, Inter, ça va être
c'est méchant.
Ouais, c'est surtout méchant pour le FC Victoria qui a été tiré avec eux. J'en connais un qui s'appelle Blaise van der Linden qui a eu chaud parce qu'il restait deux quand Marseille a été tiré, il restait deux groupes possibles. le plus fort et celui qui est peut-être, allez, peut-être le plus faible, l'Eintracht, Tottenham et le Sporting, encore que. Enfin, en tout cas, Marseille a peut-être un coup à jouer dans ce groupe. Il y a le groupe, on l'a dit, du Paris Saint-Germain, de la Juve de Benfica et donc du Maccabi Haïfa, dont on attendait le nom lors de ce tirage au sort pour savoir dans quel groupe il allait être jeté. C'est un peu ce que tu nous avais dit la semaine dernière, Alex. Au moins, le Maccabi Haïfa va pouvoir remplir ses caisses à domicile en organisant 3 matchs de gala face à 3 grandes équipes européennes.
Le prix des tickets face à PSG, Juve et Benfica, c'est autre chose que face à Atlético, Leverkusen et Porto. Ouais. Et pourtant, je soupçonne que ce sera plus cher à Bruges. Mais... Il faut pas s'en déconner, c'est 135 €, hein, un abonnement à Bruges pour ces matchs de Ligue des Champions. Et c'est dans une catégorie encore assez basse et dans la tribune familiale. J'avais vu les prix passer, je les trouve assez onéreux.
C'est vrai. Bah, oui, bah, pour la Belgique. Hein, mais, oui,
ouais, non, mais c'est... Ça reste la crème de la crème, comme on dit. Alors on va revenir à l'Antwerp un peu parce que ils sont mine de rien, ils ont joué 5 matchs, ils ont gagné 5 fois. Ils ont un match de retard à disputer mercredi, mais cette équipe de l'Antwerp, elle a l'air de tenir le coup et de délivrer les promesses qui avaient été entrevues. N'Golan est toujours bien, mais il n'a pas fait forcément le meilleur match du monde, mais il reste un métronome. Et on a aussi là-bas des rumeurs de transfert, non, non, moins.
Bah, ils ont déjà préparé en amont. Marco Overmars avait déjà, il savait exactement qui il voulait, qu'est-ce qu'il voulait. Il y aura peut-être encore une opportunité à saisir, un départ à pallier ou quelque chose comme ça. Mais l'Antwerp, c'est un train, il roule, il est sur les rails. Évidemment, il y a eu Başakşehir en Coupe d'Europe, ce qui n'est vraiment pas facile comme adversaire. Et je pense que c'était le plus compliqué qu'ils pouvaient tirer. Ils quittent la Coupe d'Europe avec les honneurs, avec un but d'écart, malheureusement. Et maintenant, ils vont se concentrer sur le championnat. Et comme tu dis, s'ils gagnent mercredi, ils ont déjà une belle longueur d'avance sur le reste.
Ouais, et souvenons-nous de ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'il y a un petit sprint qui va démarrer maintenant pour se finir fin octobre et qu'à la différence du FC Bruges et d'autres clubs belges, l'Antwerp sera libre en milieu de semaine. Et ça peut jouer.
Oui, moi je pensais que leur morale serait un peu atteinte. En toute honnêteté, je n'ai pas vu le match à la Gantoise. Je pensais que leur morale serait quand même relativement atteinte parce que leurs dirigeants ont quand même des grosses, grosses, grosses ambitions.
Ouais.
La saison européenne qui s'arrête comme ça, on a vu Anderlecht l'année passée, était exactement dans la même situation.
Ouais. Ça fait mal.
Ça fait un peu mal. Mais là, apparemment, j'ai compris que le fond de jeu, et c'est vrai que les premiers matchs que j'ai vus, oui, ça joue bien, mais ce n'est pas encore extrêmement spectaculaire. Mais en tout cas, ils engrangent des points, 15 sur 15. Et ils reçoivent l'Union mercredi.
Ils reçoivent l'Union mercredi.
Et donc là, c'est un vrai premier test. Un vrai premier test, parce que s'ils font 18 sur 18 après avoir reçu l'Union, bah, ils posent leur carte de visite comme étant les sérieux candidats.
Hein. Tout à fait.
Ils sont candidats au top 4 de toute façon avec le Racing Genk et Bruges. Ça, c'est quasi une certitude.
Ouais. J'ai entendu parler d'un possible retour, une rumeur en tout cas, Vertonghen. Où ? En Belgique, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un club qui semble en mesure de l'accueillir ?
Haïfa ?
Pourquoi pas ?
je pense qu'un Yann Vertonghen pour le championnat belge est d'office une plus-value.
Bien sûr.
Après, il faut voir. Est-ce qu'il a envie de rentrer ? Est-ce qu'il n'a pas encore envie de vivre 4 mois au Benfica ou la saison là-bas, etc.
Et la Coupe du Monde ?
C'est la Coupe du Monde, mais je pense que même si Yann Vertonghen ne joue pas à Benfica ou très peu à Benfica, il sera d'office à la Coupe du Monde.
Vu l'état de la défense, on n'a pas tellement le choix.
Mais il y a une variable qu'on n'a pas forcément encore tenu compte et qu'on s'aperçoit tout doucement maintenant, c'est toutes ces équipes. Jusqu'en novembre, elles ont entre 22 et 26 matchs à jouer. Donc je pense qu'il y aura une tournante automatique pour que d'autres joueurs, et les Vertonghen, etc., vont jouer. Donc, sinon, je pense qu'on tue la Coupe du Monde presque.
Ouais.
Et je m'explique, avec la fatigue accumulée des joueurs, il y a un mini break avant de débuter le tournoi.
C'est beaucoup plus court que d'habitude.
Oui, c'est beaucoup plus court. Il faut que les joueurs restent en forme pour les préparateurs physiques. Ce serait une catastrophe sinon, mais il y a un mini break. mais il y aura une fatigue énorme pour cette Coupe du Monde et certainement après.
Ouais.
Donc je pense que les joueurs qui sont en train de se dire aujourd'hui je ne vais pas jouer, c'est un drame. Détrompe-toi, ouais, parce qu'il y aura quand même beaucoup de matchs encore.
Je sais pas quel est le degré de confiance qu'on a encore en Vertonghen. Déjà l'année passée c'était déjà limite. Là maintenant ils semblent vraiment relégués sur le banc. Hein, donc s'il y a une offre de, ce serait principalement l'Antwerp en tout cas en Belgique, hein, qui selon les rumeurs qui semblerait le plus intéressé.
Je sais pas
s'il n'a à ce stade de la carrière pour lui, je ne sais pas s'il n'aurait pas intérêt peut-être à l'essayer. C'est son dernier grand tournoi en principe. Hein.
Ouais, il faudrait que.
Et,
ouais.
Il sera dans la sélection s'il n'est pas blessé ou suspendu. Donc, ouais. Je ne me pose pas du tout cette question. Qu'est-ce qu'il a envie ? Est-ce qu'il a envie de changer de vie, de quitter le Portugal, de revenir en Belgique, de jouer en Belgique déjà ? Je pense qu'il a quand même appris de Toby Alderweireld, qui a gagné beaucoup d'argent, certes, au Moyen-Orient, mais qu'il ne s'est pas, il s'est pas trop amusé. Ouais. Donc, par contre, on a vu le niveau quand il est revenu. Chapeau bas aussi.
Alors justement, Alderweireld, Boyata. Il y avait un N'Golan l'année passée. On en a parlé la semaine dernière. Il y a une sorte de mouvement qui fait que certains Belges, pour des raisons liées surtout peut-être à la Coupe du Monde, pensent à revenir. Et moi, dans les rumeurs, au rayon rumeurs, j'avais Adnan Januzaj à l'Antwerp aussi. Alors bon, lui, ça reste
mais
un peu plus.
Mais en fait, tous ces clubs, c'est bien simple. Qui peut les accueillir ?
C'est ça.
Bruges et l'Antwerp actuellement. Et éventuellement, s'ils ont été formés à Anderlecht. Comme c'est le cas de Januzaj, c'était Anderlecht, il pourrait être intéressé parce qu'il y a un aspect affectif. Ouais. Donc voilà, ça se limite un peu à ça. Et lui, on en parlait juste avant l'émission, je pense qu'il n'a pas de club du tout. Hein.
Non, donc j'ai lu la rumeur l'Antwerp, mais j'ai surtout lu qu'il était plus intéressé par la MLS et les Galaxy. Januzaj qui aura vraiment une carrière particulière.
Mais alors, tous ceux qui reviennent sont des gens pour qui c'est quasiment la première expérience pro en Belgique. Hein.
C'est vrai.
Ce sont des gens qui ont joué dans les équipes de jeunes, qui ont été transférés très jeunes et qui ont été des talents, qui ont été détectés, qui ont fait des très belles carrières et qui reviennent en quelque sorte, qui découvrent un peu le foot pro, en tout cas la Pro League. On se dit que c'est, genre on en parlait la semaine passée, on se dit que forcément, vu qu'ils sont au crépuscule de leur carrière, ils ne sont plus au top de leur forme. Hein, on en a vu certains, comme Pani, hein, lorsqu'il est revenu. Mais en tout cas, l'expérience d'Engelen est quand même plutôt satisfaisante. Et l'expérience d'Alderweireld, qui est quand même encore courte pour faire un bilan. Mais comme tu disais, chapeau en étant revenu d'un championnat désertique à tout niveau. Chapeau d'être là où il en est. Hein.
On va finir sur les Coupes d'Europe. On va juste parler du groupe dans lequel l'Union Saint-Gilloise est tombée en Ligue Europa. Il y a Braga, Malmö et l'Union Berlin. Ce seront de beaux voyages. Ça participe d'une...
EasyJet, oui.
Oui. Non, mais c'est vrai que ça fait une belle campagne européenne, en tout cas variée. On va dans le sud de l'Europe, on va en Scandinavie, en Allemagne.
Je pense qu'il y a quand même une déception, parce que tu as Arsenal, Manchester United, la Sociedad, AS Roma, Lazio Roma, PSV, Feyenoord, pardon, le PSV aussi.
C'est vrai qu'ils ont...
Il y avait beaucoup de belles équipes à tirer, et finalement, tu te retrouves avec Malmö, Union Berlin... Et Braga, très chouette stade d'ailleurs, se dit au passage. Mais moi j'étais un peu surpris de la vidéo de l'Union, des joueurs qui sautaient dans tous les sens, qui étaient très contents. Donc je trouvais ça assez stupide, ouais, personnellement. Pas des joueurs, mais de l'avoir mis. Parce que je suis l'entraîneur adverse. Le point 1 sur ma tactique d'avant-match et ma motivation d'avant-match, c'est regarder ça.
Voilà,
ils sont contents de jouer contre nous. Et on l'a vu ce week-end, Braga, il gagne 0-6 à Arouca. Et l'Union Berlin, ils ont été en mettre 6 à Schalke 04.
Ouais.
Je pense pas que ce sera si simple.
Honnêtement, c'est vrai que moi, des informations que j'ai eues un peu en interne à l'Union, apparemment, c'était un peu la soupe à la grimace. Hein,
ouais,
au moment des dirigeants au niveau du tirage au sort. Ça va pas. L'Union est en principe aussi. Hein, voilà, le petit poussé. Mais ça, voilà, s'ils se motivent, il y a aussi quelque chose potentiellement à faire.
S'ils jouent comme contre les Rangers, qui était un exemple pour toute la Belgique et pour tous les clubs belges de comment aborder un adversaire, ils vont prendre des points, ce qui sera excellent pour le coefficient. Et ne pas oublier que la troisième place dans le groupe unioniste.
Ouais. Descend en
conférence.
Et la Belgique a vraiment besoin de points. Hein.
La Belgique a cruellement besoin de points.
Et bien justement, on termine avec cette Conference League et Anderlecht qui a été tiré dans le groupe de Silkeborg, West Ham et
J'étais où à Bucarest.
West Ham, peut-être qu'ils croiseront Hans Van Haken.
Mais, mais comme un de contact l'a dit, on a l'impression que c'était un tirage des années 80.
C'est vrai.
Avec des clubs.
C'était Lazio Bologna, monsieur.
C'est vrai que ce sont des tirages à l'ancienne. Et le dernier club belge concerné, c'est la Gantoise, qui a été placé dans le groupe de Djurgården, Molde et Shamrock Rovers. Alors là, c'est vraiment pas la...
Non, ouais. Mais la Gantoise n'a pas fait montre pour le moment de grande fierté en Europe.
Hein. Il mérite. Et puis un dernier mot du l'Apoel Beersheva, le club israélien est dans le groupe de l'Austria Vienne, Lech Poznan et Villarreal. Quand au Maccabi de Tel Aviv, il s'est fait éliminer, donc c'est tout, j'allais dire. Écoutez, merci beaucoup pour cette soirée passée à nos côtés. On a été ravis de discuter football comme tous les lundis. Merci Steve.
Merci à vous.
Merci Alex. Et puis ben, on vous retrouve tous dès que possible. On joue la prolongation. À bientôt.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles. Bientôt vous serez à court, non. Je m'en vais faire tout, je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout, je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change. Ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout, je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout, je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges.
Judaïca 90.2 FM.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale.